Le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Carmine Maringola pour parler de la pièce Re Chichinella, une mise en scène de Madante jouée jusqu'au 29 janvier au Théâtre de la Colline. En chronique, on vous parlera de La nuit célèbre de Melissa Zehner du 22 janvier au 1er février au Théâtre Paris-Villette. Nos âmes se reconnaîtront-elles ? Un texte, une mise en scène de Simone Abkarian, jouée du 16 janvier au 2 février au Théâtre Nanterre-Amandier. Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, une mise en scène de Julie Duclos, jouée jusqu'au 7 février au Théâtre de l'Odéon. On continuera avec Patatas Fritas Falsas d'Agnès Mateus et Kim Tarida, jouée désormais, c'est passé, du 10 au 16 janvier au Théâtre de la Bastille. Et on terminera avec la question d'après l'œuvre d'Héry Alleg, une mise en scène par Laurent Méninger jusqu'au 1er février au Théâtre de la Concorde. Mais on va commencer par l'interview avec Carmine Maringola. Je laisse la parole à Thomas pour un petit résumé de la pièce qu'on a vue donc hier avec Thomas.
Oui.
On t'écoute.
Oui, c'était un énorme plaisir. Dans Re Chichinella, Emma Dante déploie une fable baroque et jubilatoire où le grotesque et le sublime s'entrelacent pour sonder les abîmes humains. Inspirée de la Papala de Giambattista Basile, la pièce raconte l'histoire absurde d'un roi tourmenté par une poule nichée en lui, le condamnant à pondre des œufs d'or au profit d'une cour avide et hypocrite. Mais au-delà de ce récit loufoque, Dante tisse une parabole universelle sur la vanité du pouvoir, l'avidité humaine et les contradictions de notre condition. Avec son langage scénique intensément physique, c'est réglé au millimètre près, la metteuse en scène sicilienne transforme le corps en un outil narratif puissant, chaque geste devenant porteur de sens. Entre satire mordante et poésie sauvage, Re Chichinella offre une fresque où la farce côtoie la tragédie dans un éclat de rire autant libérateur que cruel. Emma Dante s'initie une œuvre lumineuse et dérangeante, un théâtre total qui invite à rire, rêver et réfléchir sur nos fragilités humaines.
Merci Thomas. Alors moi je commence, Carmine, avec la première question. Donc cette pièce fait partie d'une trilogie inspirée du Conte des Contes de Giambattista Basile, un auteur napolitain du XVIIe siècle. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi Emma Dante a décidé de travailler sur ces textes ?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Avec Emma, on a commencé à lire Le Conte des Contes, il Conte dei Conti, come si dice, come dit en italien, de Giambattista Basile, parce que c'est surtout dans ma tradition. Je suis napolitaine, Emma elle est palermitaine, elle le connaissait très bien, mais j'ai profité qu'elle connaissait vraiment pas tous les histoires, les contes, ils sont 50 contes, 10 contes pour chaque jour. C'est comme il Decamerone de Boccaccio, ça c'est un pentamerone, ce sont 5 journées et à chaque journée il y a 10 contes. Et elle a trouvé la génialité de cet auteur. Il était les premiers en Europe qu'il a pris les fables, les contes de la tradition orale et l'a mis par écrit. Et les sous-titres de son premier livre sur les contes, c'est l'entretenement pour les grands et les petits. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, des sexes, des dramatiques, divertentes, comment dire,
amusantes, très amusantes, fou,
totalement fou, et il est politiquement très correct, cioè, totalement anti-woke, il y a des choses incroyables dans les pentamerones de Basile, et donc on est tombé dans cette lecture, et la première c'était la scortecata qui était sur la vieillesse, et après on a parlé des poupes des zucchero, sur la mort, sur les rapports entre les vivants et les morts, et après quand on a trouvé cette femme fable avec cet roi qui il se trouve en poule dans le, nel culo, no?
dans les fesses.
En français, on peut dire le fondement.
Dans les fondements, on a compris la potentialité, no, théâtrale que cette histoire elle pouvait avoir. Et c'est l'histoire des poules dans les œufs d'or. Dans la fable originale, c'était pas un poule, c'était un canard. Et, mais on a choisi
une noix.
Hein?
Une noix. Une noix.
Un ocre. Oui. Une noix. C'est pas un canard.
C'est pas un canard.
C'est pas un canard. Une noix. Oui, une noix. Et mais on a choisi les poules parce que on l'amène en tournée avec nous, donc c'était un peu plus simple de voyager avec un poule qu'avec un roi.
Avec une noix.
Mais oui, on a trouvé dans ça la possibilité de parler de cette histoire et la folie de cette histoire. C'était loin des œufs d'or, mais de l'histoire de Basile, cet oie, il va terminer dans les fesses de le roi. Et là, il y a la génialité et la folie de Jean-Baptiste Basile.
Moi, j'ai envie de vous demander comment vous avez, vous, abordé la transformation physique et psychologique de votre personnage, le roi, parce que vous jouez donc le roi avec cette poule. Vous passez par des états de souffrance, de grotesque et parfois même de tendresse. Comment vous avez réussi à passer de l'un à l'autre comme ça?
Oui, j'ai eu la chance surtout de travailler beaucoup avec Emma. Et la grande capacité de faire sortir dans les comédiens tous l'émotion, tous les différents niveaux d'une représentation, et même dans une représentation comme ça, absurde, non? Même de penser d'avoir cette condition physique. Donc je suis parti dans la maladie. J'ai pas vraiment pensé d'avoir un poule dans mon corps, mais j'ai pensé à un cancre, non?
Un cancer,
en tout cas maladie. Donc je me suis inspiré à des personnes malades que j'ai connues, avec lesquelles je suis dans les dernières périodes. Et sous ça, on ne pouvait pas perdre le côté humoristique. Donc on a joué sur des clowneries, sur un truc burlesque, mais maintenant les deux ou les trois niveaux. La tendresse, la maladie et l'humorisme.
C'est ça qui est complètement fou. Et il y a quelque chose de baroque dans cette pièce, c'est fondamental, mais en même temps il y a quelque chose de très contemporain. Et moi, les costumes et les attitudes des personnages, en particulier ceux de la cour, des courtisanes, évoquent parfois l'univers flamboyant de la scène drague. Il y a même un lip sync. Selon vous, en quoi ces choix esthétiques enrichissent-ils la satire sociale et politique de la pièce?
Alors, avec Emma, on travaille vraiment beaucoup sur des improvisations. Et ici, on avait déjà les tests, on n'a pas vraiment improvisé tous, mais la partiture physique du spectacle, c'est pas mal improvisé. Et donc, un des comédiens, Samuel Salamone, c'est celui-là qui chante.
Qui fait aussi le médecin.
Oui, qui fait aussi le médecin. Il a eu une expérience de drag queen. Il a travaillé pas mal comme drag queen. Et donc, il est venu à les répétitions. Il a nous amené un costume de poule, un truc fantastique. On a tous levé. Mais dans ce costume, ils sont restés les fesses de cette dame, non? De cette fesse énorme. Et même cette joue chanter, de pas chanter, donc c'est sur ça qu'elle a pris, elle a volé cette chose que chaque comédien il peut donner à la représentation, elle prend, elle la transforme dans un trésor. Mais c'était pas pensé avant, il est venu pendant
les... Oui, vous dites, ce qu'on pourrait, on pourrait penser que tout est improvisé. Non, c'est au contraire, tout est hyper réglé, mais vous avez travaillé à partir d'improvisation.
Oui, non, pendant les spectacles, on n'improvise jamais, c'est interdit, on ne peut pas... Non, mais pendant les répétitions, on a beaucoup d'espace d'improvisation et ça nous aide à mettre beaucoup de nous comédiens dans les spectacles.
J'ai une question. Donc, dans Rec Kilnella, Emma Danta procédait donc à une réécriture du conte de Basile, La Papera. Bon, La Papera. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler du procès, comment vous avez fait pour réécrire le texte? Parce que quand on lit les textes de Basile que j'ai lu hier soir et quand on entend votre texte, il y a une grosse différence. Comment vous avez procédé dans leur écriture? Comment Emma Dante a procédé?
Dans ce cas, c'était vraiment un travail très long parce qu'on a commencé avec les textes de Basile comme les textes. Et il y a, c'est un test sur l'invidia, comme c'est dit l'invidia.
L'envie,
les textes de Basile, l'envie. Donc ce sont ces deux sœurs qu'il trouve cette papera, cette...
C'est toi
qui fait les offres d'or. Il y a les autres pauvres qui habitent à côté de cette deux femmes qui voient qu'il commence à devoir de l'argent et tout. Et il demande s'il peut. Il comprend que la papère fait des offres d'or, donc il la prend. Mais chez les autres, il ne fait pas des offres, il fait son monde de la merde, il remplit toute la maison de merde. Donc, il prend cette papère, et la tue, torse l'école, comme c'est déjà, la jette par la fenêtre, et là, la fable pouvait terminer, mais là, Basile entre et là, il passe en pense qu'il doit aller à la toilette, il fait son besoin, il n'a rien pour se nettoyer. Il prend cette papera, il la utilise pour se nettoyer et là, termine. Il fait un bando, ah, si quelqu'un me libère de cette tremende histoire, il arrive, les deux sœurs, dit, ah, moi. Et la fable termine avec Felice e contenti, on dit en Italie, non? Tu se comprends.
Une fin heureuse.
Et on a essayé de le faire comme ça. On a travaillé pendant un an et demi, et après on a quitté les projets. On a dit non. On n'avait pas la sensation qu'on avait des choses à dire avec cette... c'était sympa, tout comme ça, mais on ne trouvait pas la clé. Et c'était un été, on était en train de discuter des trucs, et on a pensé, c'était Emma, moi aussi, je suis allé avec elle. Pourquoi on commence pas dans la côté du roi? Cioè, on parle de cette roi, on s'en fout de l'île et l'ol, les sœurs, l'invidia. On pense à cette roi avec cette poule dans les coules et qu'elle continue à faire des offres d'or. Et sa famille, ils veulent que les poules continuent à vivre. Et donc, on peut jouer sur cette contraste, sur les rapports familiaux. Donc, c'était vraiment très long. On avait vraiment quitté les projets. On avait même dit à des théâtres, on ne va plus les faire, on termine.
lentement.
Lascia che io pianga di Handel. Nous sommes toujours en compagnie de Carmine Maringola pour parler de Re Quiquinella. Donc Carmine, dans cette pièce, le roi poule, Re Quiquinella, on entend de la musique, on entend ces morceaux à la fin. On entend aussi Battiato aussi à la fin.
Oui.
Peut-être c'est la dernière chanson, celle de Battiato. Oui. Et on entend aussi Bisogna morire, une chanson du XVIe siècle.
Oui.
Que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces choix? Comment vous avez choisi ces... Comment Emma Dante a choisi ces musiques? Et pourquoi, par exemple, ces morceaux-là qu'on vient d'écouter? Pour moi, c'est tellement lié au film de La Sfontrie que j'arrive pas à... Hier, quand je vous ai vu sur scène en train de mourir sur cette musique, ça faisait une résonance. Est-ce qu'il y avait une intention? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces choix musicaux?
Elle est partie quand on a commencé à travailler sur ce spectacle, sur la musique baroque. Donc c'est la musique de 1060 et surtout sur la musique napolitaine. On est parti sur Scarlatti. Et on avait 8 ou 9 musiques avec lesquelles on a travaillé pendant les workshops, pendant les répétitions. Et après, on a compris que on ne doit pas être comme ça légati, no? Tu sais, liés à Scarlatti, à la musique baroque napolitaine. On a seulement les premiers morceaux que c'est de Scarlatti. Et après, on est resté dans les périodes, sauf que Battiato. No?
On est retour en Sicile, surtout.
On est retour en Sicile. Et un auteur qui nous adore. Et on a trouvé des autres musiques qu'il était plus correspondant à ce qu'il venait dans les travaux, comme La Passacaglia della Morte, que c'est un morceau, que c'est un auteur, c'est anonyme. Cioè, il y a beaucoup d'attributions, mais ce n'est pas vraiment la vraie attribution. Fondamentalement, on ne sait pas si c'est quoi l'auteur de cette musique. Et on trouvait génial parce que c'est pendant un moment où toute la cour essaie de faire manger les rois. Donc, ils tentent les rois avec des spaghettis, de la mortadella, du jambon, des biscuits, les galets bretons. Et ils chantent « Il faut mourir ». Pendant qu'on mange, pendant qu'on chante, il faut mourir. Elle continue à dire il faut mourir, bisogna morire, bisogna morire. Et donc ça, il nous a rapito, no? Il nous a pris. Et Lascia che io pianga est une chanson qu'on adorait avant de l'entendre dans les films de Lars von Trier. On adore Lars von Trier, donc c'était une parfaite liaison. Et donc on l'a choisi pour ça et même pour la voix de Cecilia Bartoli qui la chante.
Non mais c'est bien, vous avez raconté un peu cette scène de banquet, elle est hallucinante cette scène de banquet parce qu'il y a quelque chose d'ambigu, ils se battent pour qu'ils mangent et lui, il mange tout et n'importe quoi. Bon alors les galets bretons, alors ça c'est magnifique, c'est vraiment, on ne mangera plus jamais les galets bretons de la même manière, mais voilà, il y a les galets bretons avec les spaghettis juste après.
La mortadelle
après. Oui, et la mortadelle et un truc, voilà, trop fort.
Et on sent tous les odeurs dans le public.
Oui, ça c'est génial.
Voilà,
oui.
C'est complètement fou. Et ce qui est hallucinant, c'est que donc tout ça c'est pour que le roi mange, parce que quand il mange, la poule pond un œuf d'or. Et il y a donc cette déperdition en fait de richesse. C'est-à-dire ils sont obligés finalement de manger pour 15 pour finalement en obtenir qu'un seul œuf. Et il y a quelque chose d'ambigu. C'est-à-dire que ils pourraient garder toutes ces victuailles, les rationner comme il faut, ne pas les dépenser et laisser le roi tranquille. Non, en fait, il faut à la fois dépenser beaucoup pour faire souffrir beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, non, c'est vrai, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il lui dit, il dit cette cour, il pense qu'à danser, à manger, et il mange tout ce que j'ai dans mon palais. Et à la fin, les rois, ils ne mangent rien. Un olive, un petit biscuit. Il ne peut pas manger, il ne veut pas manger. Parce que...
biscotte, c'est vraiment... Oui. C'est vraiment ça.
La fête à biscottata, on dit en Italie, que c'est un typique biscotte très triste. Plus triste. Tu es malade, tu manges une fête à biscottade. C'est ça. Et par contre, les autres, ils sont toujours pris dans cette orgie d'argent, des nourritures et tout ça. Et pour moi aussi, c'est un moment très important du spectacle. C'est la clé du spectacle. Et les contrastes entre les rois et sa famille.
Mais est-ce qu'il y a... C'est dans le conte de Basilée, cette histoire d'olive et de biscotte, ou
non,
qui l'avez amené? Ok.
Non, ça c'est...
Parce que moi, du coup, j'ai pensé beaucoup à Épicure à ce moment-là, qui dit « Moi, je serais heureux avec juste un peu de pain et de fromage de chèvre. » Et il y a cette chose-là aussi, c'est-à-dire que la confrontation entre l'hédonisme d'un côté, qui est tout en consommation, et de l'autre côté, cette envie de frugalité et de sobriété qui finalement est la rédemption du roi, parce que...
Oui, les rois abandonnent l'hédonisme. On le voit juste revenir dans cette époque quand il met son sa cape rouge. Mais effectivement, ça part beaucoup des morts, donc ces spectacles. Je trouve... Pardon, Thomas, je t'ai coupé.
Non, vas-y, fonce.
Oui, je fonce. Alors, donc, pour moi, vous parlez des clés de spectacle, et pour moi, je m'interrogeais sur la métaphore. Donc, les rois se retrouvent avec cette poule dans les fesses à partir du moment qu'il a utilisé pour s'essuyer les fesses. Donc, il a utilisé un animal mort, il l'a utilisé comme un objet. Et donc, c'est là qu'il y a une sorte de malédiction.
Oui.
Oui, et est-ce que...
Là, c'est ça, on l'a pris de Basile, et là, c'est vraiment la sfortuna, la malchance. Tu sais, c'est des choses de la vie. Un moment avant, tu étais le roi plus héros du monde, fantastique, et il a un accident, parce que c'est un accident, il dit c'est un accident. Et...
Un accident au moment où il redevient humain comme nous.
Oui.
C'est le moment où il doit aller à la selle. Donc, il est comme nous, et quand il est comme nous, pan.
Dans la débolezza, non, dans les moments des majeures fragilités, quand tu es là, tu te fais de la caca, c'est un truc, les rois comme nous... Elon Musk, Trump, il l'a fait comme nous, on fait la caca tout à la même manière. Donc, et là, tu es dans ce moment de fragilité, entre cet accident, c'est la maladie, c'est la poule, et tout tombe.
Et moi, j'ai envie de vous demander, c'est une satire de la cupidité et du pouvoir, mais elle reste sans morale explicite. C'est ça autour de quoi on est en train de tourner depuis tout à l'heure. Et selon vous, comment le spectateur il peut interpréter cette absence de leçons clairement énoncées? Il n'y a pas de morale, en fait.
Il dit qu'il n'y a pas une morale explicite.
À la fin.
Et donc,
on ne sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. Tout le monde est méchant, tout le monde est à la fois... le roi est une victime, mais c'est quelqu'un qui s'est mal comporté.
Oui, non, on pense que la morale, la vraie morale, c'est le public qui l'apprend. On l'est strade, non, delle vie,
des chemins,
des champs, d'interprétation. Mais c'est vrai que quand les rois meurent et la poule sort, la cour arrive et l'appelle majesté. Donc pour la corte, c'est la même chose. C'est les rois, c'est la poule, c'est la même chose. Donc déjà là, il y a pas mal d'indications, même politiques.
Oui.
Toi, l'argent, tu fais les offres d'or. Pour moi, tu es mon roi, même si tu es un poule.
Ah, come ti inganni se pensi che gli anni non hanno da finire. È breve il gioire, i sani gli infermi, i bravi gli inermi. È un sogno la vita che parsi gradita. Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, per comprendere meglio quello che abbiamo perduto. Viviamo in un mondo orribile, siamo in cielo. La gente è crudele, è spesso infedele, nessuno si vergogna di dire menzogne, i giovani putti e gli uomini tutti, non vale il fuggire, si plachi l'ardire. Vorrei tornare indietro per rivedere gli errori, per accelerare il mio processo interiore. Ero in quinta elementare, entrai per caso nella mia esistenza, fatta di giorni allegri e di continue esplorazioni e trasformazioni dell'io.
Deuxième morceau de la soirée, Passacaglia de l'artiste Franco Battiato. Nous sommes toujours en compagnie de Carmine Maringola pour parler de Re Chichinella.
Et moi j'ai une question sur la langue napolitaine. Elle ajoute une couche de richesse poétique, hein, parce que donc le spectacle est en napolitain. Et il y a vraiment une couche de richesse poétique qui sert la pièce. En tant qu'acteur, comment vous travaillez avec cette langue pour qu'elle soit à la fois expressive et compréhensible malgré les sous-titres? Parce qu'en fait, on a parfois même pas besoin de les lire, en fait. C'est hyper compréhensible.
Mais vous avez de la chance en France parce que vous avez les sous-titres. Quand on joue cette pièce en Italie, et on la joue pas à Naples, mais même à Naples, peut-être difficile parce que c'est pas les napolitains contemporains. C'est un napolitain ancien avec des mots très difficiles, anciens, que moi aussi j'ai dû étudier et j'ai dû comprendre ce qu'il signifiait et tout comme ça. Et donc, quand on la joue à Milano, on a débuté à Milano, au Théâtre Piccolo, on la joue à Torino, à Bolzano, dans le nord de l'Italie. L'agent, il comprend tous. Pourquoi c'est baroque, donc c'est le même mot, tu peux les répéter avec plusieurs des paroles, poser des mots.
Plusieurs mots.
Et c'est vrai que les physiques, les travaux physiques qu'on fait, ils aident beaucoup. J'adore la langue de Jean-Baptiste Basile, elle est très difficile même pour moi. Mais toi, dans les spectacles, il y a 7 jours que les rois ils demandent « quel aurait-il ?» Et il dit d'une manière très poétique, parce que dans tous les contes de Basile, il y a 3 ou 4 fois, pour chaque conte, qu'il parle de Kelloré en manière très très poétique, avec des imagines énormes. Et donc, je trouve ça vraiment très poétique, très poétique.
Dernière question, Thomas.
Ce baroque, il est très, oui, très présent. Moi, j'ai souvenir, dans ce que j'ai pu étudier, que la Sicile a été ravagée en 1687 par un grand tremblement de terre et que, justement, tout a été reconstruit à la mode de l'époque, c'est-à-dire le baroque. Et j'ai l'impression que c'est ce qui unit en même temps Basile et avec Emma Dante. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se parle, quoi.
Oui, parce que on a vécu dans les baroques. C'est même un baroque des fois posticcio, non? C'est un baroque posticcio.
Posticcio.
Posticcio, c'est faux.
Apocryphe.
Caricatural.
Si, caricatural, faux. Mais c'est les baroques de notre langue, de la manière avec laquelle on parle, on gesticule, de la cassata sicilienne, non? Qui est hyper baroque, c'est un gâteau sicilien, beaucoup, beaucoup de couleurs. Del cannolo sicilien, beaucoup, beaucoup de couleurs, de la crème. Et donc, on l'a dans les DNA, cette baroque. Et c'est même un truc dramatique, parce que c'est comme un masque. C'est comme un masqueré, la tristesse, la pauvreté.
La pauvreté.
La pauvreté qu'il y a au-dessus.
Ah oui.
Merci beaucoup, Carmine, d'être été avec nous ce soir. Alors, on vous invite à aller voir la pièce qui joue jusqu'au 29 février, donc demain et après-demain, au, oui, Théâtre de la Colline. Oui. Ne la ratez pas.
Je vous remercie, les Théâtres de la Colline aussi.
Oui.
Et Wajdi Mawad,
oui,
qui nous a invités, toute la trilogie et tout notre spectacle, donc, et toute la France et la ville de Paris. J'en joue beaucoup sur les Français, sur la nourriture française, et on adore la France.
Mais nous, on est très contents de, ouais, de vous voir souvent à Paris et revenez vite. Oui. Revenez vite, on a besoin de vous. Merci beaucoup, Carmela.
Merci, merci. Merci.
Troisième morceau de la soirée, Homo Fugit Velut Umbra de l'artiste Stefano Landi. Et maintenant, c'est le moment de des chroniques.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Ce soir, on va donc vous parler de La Nuit Célèbre de Mélissa Azer, du 22 janvier au 1er février au Théâtre Paris-Villette. Nos âmes se reconnaîtront-elles ? Un texte et une mise en scène de Simon Abkarian, du 16 janvier au 2 février au Théâtre Nanterre à Mandier. Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, une mise en scène de Julie Duclos, du 11 janvier au 7 février au Théâtre de l'Odéon. Des Patatas Fritas Falsas d'Agnès Mateus et Quim Terida, qui a été joué du 10 au 16 janvier au Théâtre de la Bastille. Et on terminera avec la question d'après l'œuvre d'Héry Henri Alleg, une mise en scène par Laurent Méningère jusqu'au 1er février au Théâtre de la Concorde. Alors, on va commencer par Grimpeur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, une mise en scène de Julie Duclos. Et donc, c'était toi, Julien, avec Alice. Vous avez vu la pièce au Théâtre de l'Odéon.
On a vu ce spectacle au Théâtre de l'Odéon. Alors, je vais commencer par une chose, c'est que d'habitude, quand on parle du décor, c'est pour finalement cacher un peu la misère du reste. Là, c'est tout l'inverse. Le reste est tellement fantastique que j'ai envie de parler du décor tout de suite avant de le zapper. Parce que le décor est d'une fausse simplicité et en même temps absolument superbe. Il y a un très très beau jeu qui va avec le spectacle puisque c'est une pièce en tableau. Il y en a 24 à la base, il y en a une dizaine qui est gardée par Julie Duclos pour ce spectacle. Et le passage d'un tableau à l'autre par l'évolution du décor est extrêmement bien fait. Il y a une fluidité qui est une très très grande réussite. Alors, la pièce elle-même, c'est comme le nom l'indique, la montée en puissance du Troisième Reich. On est dans l'espace qui va de 33 à 39. On est sur le moment où la dictature, après avoir gagné les élections, après avoir surtout bénéficié de la complaisance de la bourgeoisie qui, pour barrer la route aux communistes, met Hitler au pouvoir, comment le régime s'installe, comment il s'installe dans les têtes, dans les corps, dans l'ensemble de la vie des gens, comment les gens se mettent à douter du vrai. Et c'est ce spectacle, directement en sortant, je me suis dit, si je l'avais vu il y a 10 ans, je me serais dit, c'est important de s'en souvenir. Aujourd'hui, je me dis, merde, c'est important d'être vigilant. C'est important, là aujourd'hui j'ai l'impression que ce spectacle nous prévient. Il nous prévient comment on se met à ne plus distinguer le vrai du faux. Comment on se prend à accepter une version officielle alors qu'on sait qu'elle est totalement mensongère. Comment on se met à se sentir sur écoute. Comment on peut avoir peur de ses propres enfants. Enfin, cette installation de la peur... Cette installation du pouvoir de l'État, de la culture de l'autorité, je trouve qu'elle est caractéristique de notre époque. Comment aujourd'hui, on nous dit, on a cette injonction, je suis fonctionnaire, on est plusieurs autour de la table à lettres, comment l'injonction à l'obéissance, aujourd'hui, elle remplace l'esprit critique. Ce mépris pour les faits, c'est vraiment glaçant. Et... Je pense que toi, Alice, en sortant du spectacle, t'étais tout comme moi glacé. Mais j'ai des collègues qui sont allés le voir qui ont vraiment ressenti la même chose. Plus du tout ce sentiment de « on regarde le passé ». Vraiment cette peur de regarder l'avenir.
C'est vrai que tu parles de glace. Moi, la fin de la pièce là, qui se termine sur ce cri « qu'est-ce qui ne changera rien ? Il faut faire des choses qui changent ». Moi, ça m'a fait l'effet d'une brèche brechtienne. Non, sans mauvais jeu de mots, ça me fait penser un peu à Kafka qui disait « Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». Et bien moi j'ai l'impression que ce théâtre n'a rien brisé mais a fait l'effet d'une hache. Cette hache, c'est ce regard lucide sur ce monde qui renforce notre désarroi avec la force du désespoir. Cette pièce m'a littéralement glacée, refroidie par la vision qu'elle offre du totalitarisme. Comme tu le disais, Julien, un totalitarisme qui s'insinue dans toutes les sphères de la vie. On assiste à la dégradation des rapports humains, à savoir les relations fraternelles, amicales, amoureuses, professionnelles. Chaque scène fait l'effet d'une loupe sur le processus en cours. Une force irrévocable instaure un ordre des choses qui ne tient que par la terreur. Chaque scène fonctionne comme une séquence ou comme un tableau, c'est vrai. Et moi, la séquence qui m'a particulièrement fait de l'effet, ça a été la séquence de la femme juive qui évoque sa situation avant l'avènement du Troisième Reich. Elle disait qu'avant, sa situation sociale était celle d'une bourgeoise où son argent pouvait tout. Et suite à l'avènement du Troisième Reich, en fait, elle se retrouve dans une situation où elle perd de sa valeur et son argent ne peut plus rien. Et c'est vrai que... Dans cette salle où finalement, très bourgeoise, avec voilà, des plafonds dorés, des dorures, ça a fait un effet en fait, où je me suis dit, ça m'a questionnée sur l'humanité et sur ce qui fait la valeur d'un homme. Enfin oui, c'était très beau. Allez-y.
Merci beaucoup Alice, merci beaucoup Julien. Et oui, effectivement, tout c'est d'horreur dans le théâtre. Je vous raconterai après une anecdote sur les théâtres des Champs-Élysées. Mais passons maintenant.
Donc vous avez jusqu'au 7 février pour aller
oui.
voir.
Alors, très bien, merci beaucoup Julien. Et on passe maintenant à La Nuit Célèbre. Donc une pièce de Mélissa Zener qui passe actuellement au théâtre Paris-Villette jusqu'au 1er février. Donc je suis allée la voir jeudi et Julien l'a vue samedi. Donc, La Nuit s'élève est une pièce qu'on ne va pas voir au cœur léger. Avant de voir La Nuit s'élève, je détestais les œuvres d'art qui évoquaient l'inceste, comme 99% de la population, je pense. J'ai trouvé que l'inceste, ça lissait tout. J'étais évidemment déjà au courant des statistiques et moyenne, un enfant sur 10 est victime d'inceste dans toutes les classes sociales, selon un sondage de 2020. J'étais aussi déjà convaincue de la nécessité de me parler. Mais trouver les mots, c'est souvent difficile. Il faut aussi savoir que sur 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, chaque année, il y a à peu près 1000 condamnations. Donc ça veut dire qu'on vit dans un système d'impunité des agresseurs. Ces horreurs, on ne veut pas les connaître, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les savoir. Et on essaie d'oublier, sans cesse. Les silences accompagnent l'oubli et il est difficile de parler du silence. C'est difficile d'entendre ce genre de choses. Mais pour moi, il y a un avant et un après. Après avoir vu ce spectacle, je suis de plus en plus convaincue que sans une véritable libération de la parole, on ne pourra pas sortir de cet état déplorable, de cette culture qui empêche les enfants de sortir du silence. La nuit s'élève est une œuvre pour moi magistrale qui parvient à aborder ces sujets de façon différente. L'histoire commence à l'hôpital où trois patientes essaient de sortir de leur quotidien clinique en faisant de la musique, en particulier Lisa, qui semble complètement envahie par une envie vertigineuse des créations et qui entraîne les autres patientes. Elle nous raconte avec beaucoup d'entrain l'histoire de Chrysippe, l'enfant violé par Laios, le père d'Oedipe. Cet enfant violé qui se suicide, qui est à l'origine de la malédiction de Laios. L'intérêt de la pièce réside pour moi dans sa capacité à rendre cette horreur entendable à travers le prisme de l'art, de la musique et grâce à la force de ses comédiennes. On entend trois histoires d'inceste, toutes différentes mais avec des points communs. L'agresseur est un homme de la famille, l'enfant n'a pas parlé avant de devenir adulte et chaque fois cette histoire crispe la famille qui préférait oublier, qui accuse la victime de gâcher la vie de quelqu'un. Dans la force du collectif, dans les partages de leurs histoires, ces quatre femmes trouvent leur puissance et parviennent à faire quelque chose, à faire quelque chose de leurs histoires sombres, à trouver l'audace d'écrire au monde qu'elles ont, ce qu'elles ont dû subir. Et voilà, c'est une œuvre à voir pour moi. Ils ne sont pas dans un théâtre documentaire, mais ils ne sont pas loin. Et disons que la fiction nous permet d'ajouter la distance nécessaire pour écouter ces histoires. Il faudrait, à mon avis, ajouter ces spectacles au programme de l'éducation nationale. Si vous ne pouvez pas le voir parce qu'il joue encore seulement quelques jours, je vous invite à écouter le podcast « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Podolansky qui a inspiré Mélissa Zehner pour l'écriture de cette pièce. Je te laisse la parole, Julien.
Alors, qu'ajouter ? Tu as dit à peu près tout. Je vais surtout reprendre, effectivement, pour commencer, ce que tu disais en... Toi, pour terminer, sur la nécessité d'aller, d'un point de vue d'enseignant, d'aller la voir, d'emmener. Franchement, allez-y, emmenez les ados. Et cette pièce, elle aide à briser le mur. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement fort là-dedans, c'est ce processus, et c'est pour ça que je trouve que c'est nécessaire, comment finalement la chape de plomb autour de l'inceste, autour du viol, finalement réifie les victimes et comment c'est en prenant la parole qu'elles peuvent retrouver leur statut d'être humain. Vraiment, et c'est en ça que je la trouve en plus très pédagogique sans le caractère que ça peut avoir parfois négatif quand on parle d'art. Non, elle est vraiment réussie comme œuvre pédagogique qui dit aux victimes, vous devez parler. Vous devez pas parler parce que c'est une injonction morale de la société. Vous devez parler parce que c'est nécessaire pour vous. Et franchement, c'est... Oui, moi, c'est... Je me suis senti, encore une fois, très... serré à la gorge pendant plusieurs scènes. Mais effectivement, il y a une nécessité qui est là. Il y a une nécessité de la parole. C'est une très grande réussite.
Merci beaucoup, Julien. On passe maintenant à Patatas Fritas Falsas d'Agnès Mateus et Kim Tarida, qui passait au Théâtre de la Bastille la semaine dernière. Donc, Lionel, tu as vu cette pièce avec Guigui, donc notre réalisateur qui arrive. Alors Guigui, tu n'as pensé quoi des patatas fritas falsas? On t'écoute. Il arrive.
Vous m'écoutez, vous m'attendez, oui. Bon, alors c'était...
On est toujours en train de
l'attendre, avec Lionel. Lionel, vous êtes, c'est complètement inutile de le dire, mais un extraordinaire repéreur de cinéma. Hein, donc s'il y a des gens dans cette salle qui veulent passer au cinéma, voilà, c'est là, hein.
Enfin, action
pour repérer. Voilà, excellent. Donc c'était au Théâtre de la Bastille, c'est d'Agnès Mateus et de Kim Tarida, c'était du 10 au 16 janvier. Alors c'est une trilogie, hein, donc bon, on se retrouve, donc ils ont taclé les violences policières, le sexisme ordinaire dans un deuxième temps, bon ils taclent tout, hein, et les féminicides pareil, ils y sont passés, et là cette fois-ci, bah, en fait ça s'adresse au fascisme, hein, le fascisme qui s'en prend plein la gueule, hein. Donc on a...
Pardon.
Dans le micro.
Aux jeunes gens qui connaissent pas le fascisme.
Absolument. Bah, enfin, il y a beaucoup de... Tu sous-entends qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle, de
non,
jeunes.
Oui, beaucoup de jeunes adultes et d'ados.
Alors qu'ils n'étaient pas prêts peut-être à entendre ce qu'ils ont entendu, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs assez provocants. Bon, je sais pas, Gaza, bon, tu te le fous au cul, enfin des trucs comme ça. Alors là, c'était pas une poule, hein, c'était carrément Gaza. Et oui, c'est assez violent, les gens se révoltent. Alors au bout d'un moment, bon, évidemment, Agnès Mateus se sent quand même
parce
un peu obligé.
Brecht était là. Parce que Brecht était dans l'ombre.
Brecht était tapis, évidemment. Évidemment, toi, tu l'as repéré, Brecht,
oui, il
était partout.
Il y avait la dimension politique, il y avait la déconstruction de l'illusion théâtrale.
J'allais le dire.
Il y avait des images chocs, hein, il y avait des images chocs. Le coup de feu, ce drapeau pendant 15 minutes au début qui recouvrait toute la scène.
Absolument, Lionel. Voilà. Alors, mais c'est 15 minutes de drapeau facho au départ, là, de drapeau franquiste. C'est quand même... Parce qu'on est arrivé quand même...
Je crois que c'était 40 ans le franquisme. C'était pas 40 ans de franquisme.
Alors donc, toi, tu te tapes 15 minutes et tu te plains. Bon, oui, effectivement, c'est abusé. Alors Kim Tarida, il avait pensé à 30 minutes au départ. Un truc de... Voilà. Donc au bout de 15 minutes, quand même, on se regardait tous dans la salle à se demander, mais enfin bon, quand est-ce qu'on on passe à autre chose. Elle nous avait prévenu à l'entrée de la salle, vous allez vous en prendre
plein
les oreilles. Oui, c'est vrai qu'on on avait le droit d'avoir
On en a pris aussi plein la vue.
Voilà.
Mais c'était très beau ce drapeau, mais c'était peut-être un peu long. Ouais, je me suis dit, elle va rien nous épargner.
Elle ne nous a rien épargné, alors elle va nous gueuler dessus pendant tout le spectacle. Et alors finalement, je trouvais ça un peu caricatural, et je vais vous raconter, parce que je suis un peu là aussi pour vous parler de ma vie. Ce week-end, je suis allé à Nice voir mon oncle et ma tante, et figurez-vous qu'avec un tout petit coup dans le nez, et ben en fait, il se transforme en Agnès Mathéus, et ça braille, et ça braille. On a quand même peur de tous ces musulmans qui arrivent, on ne sait plus où on en est, on a très très peur. Et on a peur des choses. Et là, on sent de l'étranger.
Vous savez que si quelqu'un prend l'antenne là maintenant, il ne va pas savoir ce qu'il
Bienvenue entend. Sur Radio Courtoisie. on nous le dit, il faut quand même annoncer régulièrement le nom de la radio. Mais Mais arrêtez de rigoler, c'est vrai.
Mais quel est le rapport entre le fascisme et les patatas fritas?
Alors, ce sont des... Alors, voilà. Ce qui t'a pas échappé, c'est patatas fritas.
Falsas.
Donc là, vraiment, on est dans le contre-pied culinaire. La patatas fritas, c'est un côté réconfortant et tout ça. Bon, là, c'est faux. Et pourquoi réconfortant? Parce que je pense avoir... C'est parce que le fascisme, en fait, finalement, c'est tu obéis, puis tu te relâches. Et ça, elle le répète souvent.
Un peu, donc Deliveroo, c'est un peu un allié du fascisme qui arrive.
Pardon ?
Deliveroo, c'est un peu un allié du fascisme qui arrive.
Ah,
bon, j'arrête.
Oui. Bon, on va pas se parler de Deliveroo,
mais peut-être on aurait pu en parler.
On aurait pu en parler, on est passé à côté.
Agnès en a pas parlé.
Non, mais alors Agnès, c'est une femme aux multiples talents, parce que bon, elle braille énormément, ce qui est quand même bon, brailleuse. Elle est seule sur scène, donc elle se voit en performeuse. Et puis après, elle sort carrément une marionnette de Franco, qui s'appelle Franquito, et qui rencontre Marine Le Pen. Bon, Franquito, qui est assez sympa. Donc elle nous explique que dans tous les pays où ils vont, ils changent. Hein. Donc des fois, c'est Marine Le Pen, des fois, ça doit être Giorgia Meloni. Enfin, je ne sais pas, ils doivent avoir plein de petites marionnettes. Et en tous les cas, oui, c'était pas mal, ce spectacle, non? Les gens réagissent. Elle essaie de nous corrompre.
Oui, mais les gens réagissent parce que Brecht est encore là. On appelle le public à la révolte. Elle prend à partie le public tout le temps. Elle est dans le public à un moment donné.
Elle est dans le public, elle donne de l'argent au public et elle nous demande de crier vive Marine Le Pen. Bon, personne ne le fait, que des lâches.
Elle essaie de nous corrompre. Exactement. Son propos, le fascisme est corrompu.
Enfin voilà.
Merci beaucoup, Bibi.
Est-ce qu'on est bon là?
On est bon. Merci Lionel.
Bon, merci beaucoup Lionel. Hein, et puis n'hésite pas à revenir voir des spectacles avec nous. Hein.
Moi, j'ai pas compris s'il fallait le voir ce spectacle ou pas.
Oui.
Alors, bon, déjà, il passe plus. Mais moi, je dirais.
Oui, mais on sait jamais.
On doit le regretter ou pas?
Alors, je dirais que Thomas, toi, ça te plaira pas. Patatas fritas, tu ne l'avais pas sélectionné dans ta liste de trucs de préférence. Et je pense qu'effectivement, ça te correspond pas. Mais par contre, je pense que ça peut être vu. C'est excellent pour les classes qui sont nues. Parce que monsieur est un petit peu. Bon, là, c'est un peu rentre dedans et tout ça. Et c'est un peu. Il y a parfois un côté un peu grossier et grosses ficelles.
Il faut aller le voir pour donner. Pour
des jeunes, je pense.
Oui,
des jeunes, c'est bien.
Pour ceux qui ne connaissent pas le fascisme.
Voilà.
Moi, d'accord.
Mais ils peuvent que connaître le fascisme et vivre dans un état limite fasciste aujourd'hui.
Merci beaucoup Guigui, merci beaucoup Lionel. On passe à la suite. Donc on passe à Nos âmes se reconnaîtront-elles, un texte et mise en scène de Simone Abkarian. Donc il passe au théâtre Nantaramandier. Donc Alice, tu étais toute seule pour le voir. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu en penses?
Alors c'est pas Simone, mais c'est Simon. Mais c'est pas grave.
Tu dis Simone ?
Oui.
Ah, Simon.
Oui. Donc Simon, moi, j'ai pas été complètement emballée par ce spectacle, mais on peut dire que c'était quand même de qualité, mais je suis pas ressortie complètement convaincue. C'est un triptyque. Très bien écrit donc par Simon Abkarian, qui est auteur metteur en scène au parcours illustre, reconnu par de nombreux prix. C'est très bien joué aussi avec, par lui-même, donc Simon et Marie-Sophie Ferdan, une comédienne qui semble aussi répondre au canon de la beauté. Une beauté lisse et sans faute. Ce canon semble être à l'origine d'une guerre sordide entre deux peuples. C'est un peu l'histoire dans laquelle on est plongé, une épopée tragique. Et donc, en bref, cette belle femme s'est tirée avec un beau gosse plus jeune. De là, une guerre terrible s'engage entre deux rois. La conséquence de ce que peut donner une guerre, du tragique, épique. Voilà, donc c'est très bien chanté aussi.
Parce qu'en fait, il joue Ménélas et voilà. Hélène. Donc exactement. On est en pleine guerre de Troie.
Exactement. D'accord. C'est très bien chanté aussi pour supporter le tragique par deux musiciens kurdes. Je ne sais pas si je prononcerai bien les noms, mais Roussan Filizek et Eylül Nadziye. Alors, bon, effectivement, c'est très bien écrit, très bien joué.
Mais ça raconte quoi, l'histoire
C'est donc comme
les retrouvailles des Ménélas.
Voilà, ce sont les retrouvailles des Ménélas, donc le roi et Hélène.
D'accord.
Donc après avoir...
Après qu'Hélène est partie avec Paride.
Voilà, d'accord. Exactement. Et puis...
Elle est contente de le voir ou pas?
Il a tué Paris. Hein.
Mais révélez pas tout, en fait.
C'est Homer qui le dit, hein.
Bon bah vous êtes au courant. Après c'est vrai que bon voilà j'ai pas été emballée. Mais après je recommande quand même d'aller voir cette pièce.
Mais donc qu'est-ce qui se passe, ils sont contents ou pas de s'y retrouver?
Je ne vous dirai pas l'issue qui est. En fait c'était assez attendu. Non je vous révèle pas l'histoire. Vous voulez en savoir plus, allez voir ce spectacle. Mais j'ai pas non plus été emballée.
Mais en même temps, j'ai pas été emballée.
D'accord.
Et je me suis retrouvée toute seule à aller aux Amandiers. Merci les gars.
Alors, merci beaucoup Alice. Donc, allez voir ce spectacle pour percer ces mystères. Et on passe maintenant donc à la dernière chronique de la soirée. Donc, la question. La question d'après l'œuvre d'Henri Allègue, une mise en scène de Laurent Méninger. Qui joue jusqu'au 1er février au Théâtre de la Concorde. Oui. On t'écoute, Thomas.
Dans le silence tendu d'une salle obscure, là où les battements de cœur deviennent un second souffle, un homme s'avance seul. Sa silhouette frêle mais indomptable traverse le plateau nu, comme si elle portait en elle le poids de toutes les douleurs, de tous les combats, de toutes les vérités refoulées. Stanislas Nordet, habité par l'urgence d'un témoignage, prête son souffle et son âme aux mots glaçants d'Henri Allègue dans « La question ». Ce texte, tranchant comme le scalpel de l'histoire, dissèque l'indicible sans jamais sombrer dans le pathos. La mise en scène de Laurent Méninger fait le choix de l'épure, laissant toute la place à la puissance brute du récit sur un sol noir, réfléchissant comme un miroir brisé. Nordet devient tour à tour témoin, survivant, bourreau et mémoire vivante. Derrière lui, deux rideaux tissés, fragiles et mouvants, semblent respirer au rythme du texte, palpiter sous l'assaut des souvenirs, la lumière tantôt crue, tantôt évanescente, sculpte chaque mot, chaque geste, chaque silence. Rien n'est superflu, tout est au service de cette parole dense, coupante, essentielle. À travers cette incarnation magistrale, Nordet ne joue pas Allègue, il le fait résonner comme une cloche que l'on frappe pour réveiller les consciences endormies. Le spectateur est happé, dépossédé de son confort moral, confronté à l'atrocité méthodique de la torture et à la résilience inébranlable d'un homme. Les descriptions chirurgicales des sévices, électrodes, noyades simulées, coups répétés, atteignent l'insoutenable mais jamais l'indécence. À chaque mot, le spectateur vacille, éprouve cette humanité bafouée, cette dignité arrachée et pourtant miraculeusement préservée. Nordet, comme un funambule, avance sur une ligne de crête, toujours sur le fil de l'émotion contenue. Sa diction précise et implacable ne cherche pas à séduire, mais à frapper. Chaque phrase d'Allègue devient un uppercut, un appel vibrant à la vigilance, la même vigilance dont parlait tout à l'heure Julien, à travers ce texte écrit dans une cellule sur des fragments de papier toilette. Ce sont des générations de torturés, de disparus, de résistants que l'acteur ressuscite. La question n'est pas un spectacle qui laisse indemne. C'est un rappel brut, déchirant de ce que l'humanité peut avoir de plus abject. mais aussi de plus admirable. Alleg, ce rescapé qui a choisi de témoigner pour les disparus, livre ici bien plus qu'un cri de douleur. Il offre un acte de résistance universelle. Et Nordet, dans cette interprétation d'une intensité rare, devient son messager, un passeur de mémoire qui transforme chaque spectateur en témoin. Il faut saluer l'audace et l'intelligence de Laurent Méninger qui parvient à inscrire cette œuvre dans une actualité brûlante. Quelqu'un qui pratiquait la torture vient de mourir, la torture en Algérie, la même dont on parle. Et donc Méninger, il fait ça sans jamais forcer le trait. Car si ce texte parle des exactions d'un autre temps, il résonne comme un écho douloureux à toutes les guerres, à toutes les oppressions, à toutes les formes de déshumanisation encore à l'œuvre aujourd'hui. En quittant la salle, le cœur serré, les tempes battantes, on comprend que la question n'est pas simplement une pièce de théâtre, c'est une piqûre de rappel, une mise en garde, une main tendue à l'histoire pour ne pas sombrer à nouveau dans les ténèbres. Et c'est enfin une ode déchirante à la dignité humaine, portée avec une grâce infinie par Stanislas Nordet, à voir, à écouter, à méditer absolument.
Merci beaucoup Thomas. Donc allez voir Stanislas Nordet dans ses textes. La question des...
Henri Alleg, mis en scène par Laurent Méninger au Théâtre de la Concorde jusqu'au 1er février.
Merci beaucoup Thomas. Donc ce soir, et on a terminé pour ce soir les chroniques, ce soir on vous a parlé de La Nuit se lève de Mélissa Zenner du 22 janvier au 1er février au Théâtre Paris-Villette. Nos âmes se reconnaîtront, elles. Un texte et mise en scène de Simon Abkarian au Théâtre Nanterre jusqu'au 2 février. On vous a aussi parlé des grands peurs et misères du Troisième Reich, de Bertolt Brecht, une mise en scène de Julie Duclos jusqu'au 7 février au Théâtre de l'Odéon. Patatas Fritas Falsas d'Agnès Mateus et Quim Tarida qui a été joué du 10 au 16 janvier au Théâtre de la Bastille. Et on a terminé avec La Question d'après l'œuvre d'Henri Alleg, une mise en scène de Laurent Méninger jusqu'au 1er février au Théâtre de la Concorde. À l'invité, nous avons reçu Carmine Maringola. Ce soir, fête son anniversaire. Bon anniversaire, Carmine.
Bon anniversaire.
Pour parler de la pièce Requinella, que vous pouvez voir encore pendant 2 jours au Théâtre de la Colline, donc une mise en scène de la grande Emma Dante. Et cette émission a été préparée et présentée par moi, Camilla, avec la complicité de Thomas Adam Garnin, Julien Honte, Alice Valla, Guigui, Lionel. Et il y a avec nous ce soir aussi Fantine qui nous regarde dans l'ombre. Et cette émission a été réalisée par Guigui. Nous, on se retrouve les lundis 24 février à 20h sur Radio Campus Paris avec la rédactrice chef d'Alice. À bientôt.
À bientôt.
Bisous.
À bientôt. Au revoir.
Bisous, bisous. Juste. Et allez voir Requinella. And the night must have this moon. Sure must both must rise and fall. I'll be there.